avant de commencer mon exposé sur la dialectique, j'aimerais vous dire deux choses. La première, je voudrais vous prier de bien vouloir excuser mon français, mon accent. Vous savez bien que, certes, vous ne vous en doutez pas, je ne parle pas dans ma langue maternelle, puisque Victor vient de dire, je suis iranien. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il s'agit d'un exposé schématique, d'un survol rapide à travers les temps jusqu'à Marx, destiné plutôt à susciter une bonne discussion. Dans cette première séance, j'ai proposé le plan suivant, la dialectique, histoire générale de la dialectique dans l'histoire, et dans la prochaine séance, c'est-à-dire le 9 décembre, sauf erreur, la dialectique dans la nature. Qu'est-ce que la dialectique? La dialectique, c'est la nuit où toutes les vaches sont noires, écrivait François Châtelet dans un article intitulé Dialectique dans la petite encyclopédie politique. Et il concluait, désormais, je propose quiconque utilise ce terme qu'il veuille bien le définir au préalable. Et André Lalande, avant lui, dans la Dictionnaire technique et critique de la philosophie, finissait son article par la même proposition. Ces propositions s'expliquent par la confusion extraordinaire que fait non seulement le langage courant, mais aussi et surtout le langage savant. On utilise tour à tour le terme dialectique dans le sens de l'art de la discussion, de la logique, de la méthode, de la contradiction, de la dialectique idéaliste et enfin de la dialectique matérialiste. Au fond, je crois que les mots comme les hommes ont leur destin, ou plus précisément leur histoire. Au gré des mouvements de l'histoire, ils naissent, apparaissent, disparaissent et sont remplis tour à tour des sens, des significations différentes, voire opposées. C'est la vie qui les met à la mode, ou plutôt à l'ordre du jour. Il y a de ces mots, de même que la dialectique, qui ont été mis à l'ordre du jour. Le premier, le capital, le capitalisme par Marx, l'impérialisme par Lénine, le révisionnisme vers les années 60 par les Chinois. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le terme dialectique, je crois que les différentes significations que je viens d'indiquer correspondent à un moment de l'évolution dans l'histoire du concept de la dialectique. Car, vous n'ignorez pas, dans l'Antiquité grecque, le mot dialectique voulait dire l'art de discussion. Au Moyen-Âge, et aussi à la sortie du Moyen-Âge, la méthode, la logique, l'art de porter la contradiction. Puis, avec Hegel, la dialectique idéaliste. Avec Marx, dialectique matérialiste. Je commencerai donc par le commencement, donc très rapidement par l'Antiquité grecque. Le terme dialectique, du point de vue étymologique, correspond au mot grec « et dialectique », qui sous-entend l'art de discussion. Il paraît, d'après Aristote, que le concept a été inventé par Zénon d'Élée, disciple de Parménide, qui était maître de Zénon. Parménide était un moniste. Il écrivait notamment « L'être est immobile, Il est sans commencement et sans fin. Il demeure identique à lui-même, immobile et à la même place. Zénon d'Elée soutenait ses thèses face à ceux qui croyaient à la pluralité en disant, mais sans recourir, sans présenter une nouvelle thèse, tout simplement en recourant à l'absurde, en disant, eh bien, si on admet la pluralité dans les choses, à ce moment-là, on est obligé d'admettre que les choses, une chose est à la fois petite et à la fois grande, petite et grande. Or, il ne peut pas être et petit et grand. Donc, c'est ainsi qu'il rejetait la thèse de la multiplicité. Ensuite, les historiens nous racontent que le terme, que le concept de la dialectique a été utilisé par les sophistes. Ils l'ont utilisé pour défendre leurs intérêts. Socrate, lui, il l'a utilisé dans le sens de la découverte de la vérité. Il entretenait une discussion avec un de ses disciples. Par exemple, à Ménon, un de ses disciples, il demandait « qu'est-ce que la vérité ?» L'autre répondait par une définition générale. Il lui demandait « alors, qu'est-ce que la vertu, par exemple, en ce qui concerne une ménagère ?» Eh bien, faire bien son ménage. Et qu'est-ce que la dialectique en ce qui concerne un citoyen ? D'être un bon citoyen pour vieillard, pour l'enfant, etc. Et finalement, Socrate arrivait à conclure « J'étais à la recherche d'une seule vertu, je suis en présence de plusieurs vertus. » Aristote ajoutait une nuance péjorative en disant « C'est un mouvement d'esprit, mais un jeu hasardeux de contradictions, donc ce n'est pas très valable. » Quoi qu'il en soit, il faut retenir que la dialectique de l'Antiquité grecque, chez les philosophes idéalistes, excluait la contradiction et admettait le mouvement de l'esprit. Et en tout cas, elle était idéaliste. Mais toujours dans l'Antiquité grecque, 6 et 5 siècles avant notre ère, au même moment qu'est née la dialectique idéaliste, est née aussi la dialectique matérialiste. Les idéalistes, à défaut de pouvoir fournir une explication scientifique de l'univers, s'abritaient derrière les forces surnaturelles. C'était la justification de la religion, ses mystifications, et le primat de l'esprit sur l'être et la nature. Bref, justification de l'idéalisme. Cet idéalisme-là était né, comme tout idéaliste d'ailleurs, de l'incapacité d'explication scientifique des hommes devant la nature, les phénomènes de la nature, et devant aussi leur peur. Mais ce qui est important, au même moment qu'est né la dialectique et la philosophie idéaliste, est née aussi la dialectique et la philosophie matérialiste. À l'école de Milet, Thalès, Anaximandre, Anaximène, ce sont les philosophes idéalistes, en d'autres termes des physiciens, qui, face à ce qui essayait d'expliquer les phénomènes de la nature, les choses par rapport aux forces surnaturelles, ils disaient « allez à la nature, observez-la ». Les plus importants dialecticiens de l'école matérialiste grecque sont Héraclite, Démocrite et Épicure. Vous vous rappelez de ce que disait Héraclite, on ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve et on ne peut pas toucher deux fois une substance périssable. Et il ajoutait, nous descendons et nous ne descendons pas dans le même fleuve. Il y a dans cette dialectique, celle de Démocrite déjà, la notion du temps, la notion de l'unité des contraires et la notion du changement. Bien que formulée avec exactitude et justesse, la dialectique matérialiste de l'Antiquité grecque souffrait d'un a priori, c'est-à-dire qu'elle n'était pas capable d'apporter les preuves scientifiques de ses prétentions, des thèses qu'elle avançait. En d'autres termes, il y avait une inégalité de développement entre une pensée qui va plus rapidement que la science. Les sciences étant très peu développées, les philosophes étaient savants, le savant était philosophe. L'unité entre la philosophie, il y avait donc l'unité entre la philosophie et la science. La philosophie idéaliste, déjà à cette époque-là, se lève au rang de l'idéologie dominante. Mais au cours de l'histoire, le matérialisme se développe lui aussi. Et ce développement, c'est le fruit d'une lutte permanente entre l'idéalisme et le matérialisme. Il s'ensuit que son analyse doit être envisagée en liaison avec l'histoire de la science et celle de son évolution. Une telle analyse montre que le matérialisme dialectique se base sur la science et ne se développe que par et avec la science, tandis que l'idéalisme admet le fait en l'expliquant par référence au surnaturel. Donc, en le justifiant, justifie du même coup l'ordre existant. En écrivant tout ce qui est réel et rationnel et tout ce qui est rationnel et réel, ou bien en écrivant l'état est rationnel réel, est-ce que Hegel ne justifiait pas le despotisme de Guillaume III, la censure, les prisons? Engels nous dit que oui. Mais à mesure que la science apporte des précisions dans l'explication des phénomènes, lorsqu'elle gêne et entre en contradiction avec les dogmes et les convictions des philosophes idéalistes, s'opère alors la distinction, puis la séparation entre la philosophie et les sciences. S'agissait-il d'une subterfuge qui permettrait à la philosophie idéaliste dominante de rester au rang qu'elle occupait? Quoi qu'il en soit, en évoluant avec la science, le matérialisme moderne, celui de Marx et d'Engels, a pu réunir, mais cette fois pour de bon, définitivement, la philosophie et la science. Cette union s'est réalisée au terme d'une longue évolution. Elle commence par l'Antiquité grecque, en passant par le Moyen-Âge, par les matérialistes anglais et français, et enfin finit avec Marx et Engels. Au Moyen-Âge, il y a eu l'arrêt complet, total, du développement de la dialectique matérialiste. À la sortie du Moyen-Âge, ce n'est pas avec Kant et Descartes que la dialectique matérialiste a commencé sa véritable évolution, mais plutôt avec Bacon, Locke, les Anglais, les matérialistes anglais, les encyclopédistes français, notamment Diderot, et la gauche hegelienne en Allemagne, Boer, Feuerbach, etc. Ce que j'appellerais les matérialistes pré-marxistes. Si l'on devait présenter le matérialisme pré-marxiste et sa dialectique par quelques épithètes, on pourrait dire qu'il était mécaniste, qu'il ne considérait pas le monde en tant que processus, et enfin qu'il était contemplatif. Voici ce qu'Engels écrivait à ce propos dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. Le matérialisme du siècle précédent était avant tout mécaniste, parce qu'à cette époque, de toutes les sciences naturelles, seule la mécanique et encore seulement celle des corps solides, célestes et terrestres, bref, la mécanique de l'absentor était arrivée à un certain achèvement. La chimie n'existait encore que dans sa forme enfantine. La biologie était encore dans les langes, l'organisme végétal et animal n'avait encore été étudié que grossièrement et n'était expliqué que par des causes purement mécaniques. Pour les matérialistes du XVIIIe siècle, l'homme était une machine, tout comme l'animal pour Descartes. La deuxième étroitesse, continue Engels, spécifique de son matérialisme, consistait dans son incapacité à considérer le monde en tant que processus, en tant que matière engagée dans un développement historique. Cela correspondait au niveau qu'avaient atteint à l'époque les sciences naturelles et à la façon métaphysique, c'est-à-dire antidialectique, de philosopher qui en résultait. Si le matérialisme pré-marxiste est mécaniste, c'est que le mécanique était la première science qui se soit développée et que le mouvement mécanique est plus facile à concevoir. Il est plus facile de comprendre les choses dans l'immobilité, de manière fixe, à l'état de repos, qu'en mouvement. L'exemple de l'invention de la photographie d'abord, du cinéma ensuite, est édifiant à cet égard. Avant d'étudier les choses en mouvement, on les a toujours étudiées en repos, donc de façon fixe et séparée, parce que cela est plus simple. En biologie, par exemple, avant Darwin, Lamarck, dans l'étude zoologique, on a classé les animaux en races, en espèces, parce qu'on croyait qu'entre elles, il n'y avait rien de commun, qu'elles n'étaient objets d'aucune évolution, ni de transformation. Considérer les choses de façon immobile, définitivement immobile, dans leur identité, séparées les unes des autres, sans rapport mutuel, conclure à l'exclusion de l'unité des contraires, croire que le mouvement est une illusion d'optique ou qu'il est simplement mécanique. Par conséquent, renoncer à l'historicité dans le champ de la recherche, ce sont là quelques caractéristiques de la dialectique idéaliste dont la dialectique pré-marxiste ne s'était pas dégagée totalement. Bien plus, dès le milieu du XVIIe siècle, tout au long du XVIIIe siècle, c'est-à-dire pendant toute la période qui va de Descartes à Hegel, de Hobbes à Feuerbach, les philosophes n'ont nullement été, comme ils le croyaient, entraînés par la force de l'idée pure, mais par le progrès des sciences. Et comme Engels le remarque, je cite, si chez les matérialistes cela apparaît à la surface, tous les systèmes idéalistes également se remplirent de plus en plus d'un contenu matérialiste et s'efforcèrent de concilier du point de vue panthéiste l'antagonisme de l'esprit et de la matière. Fin de citation. Il y a donc une interprétation entre les philosophies. Il y a une confusion générale au point qu'Engels parle, à la suite de textes que je viens de citer, de la décomposition philosophique. Mais pas de rupture encore entre les deux systèmes généraux d'explication du monde que sont le matérialisme et l'idéalisme. Les facteurs qui ont contribué, qui ont joué un rôle plutôt déterminant à la rupture totale entre le matérialisme et l'idéalisme, donnant lieu à la naissance d'une nouvelle méthode scientifique, celle de la dialectique, sont schématiquement les suivants. Les découvertes scientifiques du XIXe siècle, la dialectique hegelienne, enfin la dialectique marxienne. Il s'agit de trois véritable révolution. Premièrement, les découvertes scientifiques du XIXe siècle. Les plus importantes découvertes scientifiques du XIXe qui ont fourni d'abord à Hegel, puis à Marx, une idée précise de processus dialectique sont la découverte de la cellule vivante et de son évolution. La découverte de la cellule organique en tant que l'unité de base de tout organisme végétal et animal par la multiplication et la différenciation rejette la stricte distinction qu'on avait établie auparavant entre les règnes animal, végétal et animal. Elle précise l'idée de l'évolution et confirme celle de la succession de mort et de naissance. Ensuite, deuxième découverte, puisqu'il s'agissait de trois découvertes, la découverte de la transformation d'énergie entre la chaleur, la lumière et le son, etc. Cette découverte permet de s'assurer qu'il y a des enchaînements et des processus tant parmi les espèces qu'en matière inerte, que dans la nature vivante. Et là, je cite Engels, la dernière phrase, tant en matière inerte qu'en matière vivante, que dans la nature vivante. La troisième découverte, c'est celle de Darwin, la théorie darwiniste de l'évolution. L'ensemble de ces découvertes met en évidence que dans la nature, dans l'univers, il n'y a pas de rupture rien que des processus. Ces révolutions scientifiques du XIXe siècle ont coïncidé avec une véritable révolution effectuée, celle-là, par Hegel, sur le plan de l'idée pure, de la pensée. C'est la dialectique hegelienne. Voici comment Engels rend hommage à ces révolutions hegeliennes. Je cite, « Mais la véritable importance et le caractère révolutionnaire de la philosophie hegelienne, c'est précisément qu'il mettait fin, une fois pour toutes, au caractère définitif de tous les résultats de la pensée et de l'activité humaine. La vérité n'était plus, chez Hegel, une collection de principes antagonistes, dogmatiques. La vérité réside désormais dans le processus de la connaissance même, dans le long développement historique de la science, qui monte des degrés inférieurs aux degrés supérieurs de la connaissance. Il n'y a rien de définitif, d'absolu, de sacré devant elle, devant l'histoire. Elle montre la caducité de toute chose et en toute chose, et rien n'existe pour elle que le processus ininterrompu du devenir et de transitoire, de l'ascension sans fin de l'inférieur au supérieur, dont elle n'est elle-même que le reflet dans le cerveau pensant. » Fin de citation. Entendu. Entendu. Je suis allé exprès un peu vite parce que j'ai pensé que tout ça c'était des généralités qui ont été dites avant. Entendu, je vais aller moins vite. Alors, toujours selon la lecture qu'Engels donne de Hegel, la vérité absolue étant inatteignable, c'en est fini de toute la philosophie. C'est pourquoi on fait la chasse, dit Engels, aux vérités relatives accessibles par la voie des sciences positives et de la synthèse de leurs résultats à l'aide de la pensée dialectique. Ainsi, tous les concepts de base, soit le changement, le mouvement en tant que processus de la nature et de l'histoire, la triade de la dialectique, la relativité, se trouvaient déjà chez Hegel. Mais le philosophe d'Iéna est idéaliste. Il donne importance primordiale à l'esprit et par conséquent pense que ce sont les changements de l'esprit qui sont à l'origine des changements dans la nature et dans l'histoire. Je citerai un exemple très rapide en ce qui concerne l'histoire à l'intérieur de la société. Hegel constate bien une contradiction, une lutte entre la famille et la société civile. Mais il finit par dire que, avec la naissance de l'État moderne, l'idée de l'État moderne, cette contradiction est finie. Il n'y a plus de contradiction. Il n'y a plus de lutte avec la naissance de l'État constitutionnel moderne. Et d'ailleurs, cette contradiction qu'il avait constatée, c'est au fond une contradiction dans la pensée. Ce n'est qu'un moment de la pensée. Donc, allez dormir tranquillement. La troisième révolution, la première, c'était les découvertes scientifiques du XIXe siècle, la seconde, celle de Hegel, la troisième, la révolution marxienne. C'est précisément à ce niveau de débat, après Hegel, qu'intervient Marx. Il pense que la dialectique hegelienne donne des affirmations justes, mais à l'envers. Certes, Hegel est un génial révolutionnaire, mais au niveau de la pensée pure, par rapport aux théories du passé. Pour que sa pensée soit réellement révolutionnaire, il faut la remettre sur ses pieds, c'est-à-dire l'envisager du point de vue matérialiste. Marx et Engels s'emploieront à cette tâche pendant plus de 40 ans. Ce sera la révolution marxienne, c'est-à-dire la naissance du matérialisme dialectique et du matérialisme historique. L'œuvre de Marx et d'Engels s'est développée par la lutte, par le combat, dans l'opposition, par la polémique contre l'idéalisme, hegélien, contre toute espèce d'idéalisme, contre Proudhon, contre les matérialistes mécanistes, en particulier celui de Boer et de Feuerbach et la gauche hegélienne. De même que Boer, Feuerbach avait écrit la religion, avait critiqué la religion. Sa critique était menée au nom d'une certaine philosophie matérialiste, contre l'abstraction religieuse, contre l'idéalisme, contre l'aliénation religieuse. Dans l'essence du christianisme de 1841, Feuerbach avait écrit « Le Dieu de l'homme, c'est l'être même de l'homme ». En d'autres termes, l'homme projette en dehors de lui sa meilleure partie et adore cette partie-là et il s'aliène dans un faux idole, dans une image déformée de lui-même. Mais en critiquant la religion, Feuerbach dit ce qui est encore plus grave, c'est qu'en créant Dieu, la philosophie idéaliste pose les valeurs d'abord, la bonté, la charité, le bien, le mal, la justice. Il les pose en tant que valeurs, juge action accomplie en fonction de ces valeurs préétablies. Donc, l'action, le jugement vient d'en haut, de l'extérieur de l'action. Il est transcendant. Il ne s'agit pas de philosopher sur la bonté, la charité, etc. Il s'agit de les introduire ici-bas dans la réalité, dans la vie de chaque jour. Il faut que la justice, l'humanité, le droit, l'émancipation humaine se réalisent dans le monde matériel. Or, tant que la religion en parlera sans agir pour les réaliser, elle promet un bonheur illusoire dans l'au-delà au détriment du vrai bonheur d'ici-bas. C'est pourquoi Feuerbach avait écrit, comme Boer avant lui, « Notre religion est devenue un opium. Il est devenu opium du peuple. » Marx, reconnaissant de cette prise de position de Feuerbach, parce qu'il était critique vis-à-vis de l'idéalisme, vis-à-vis de la religion, du dieu de religion, explication qu'il a fournie en ce qui concerne le dieu de la religion, il lui rend hommage. Ensuite, l'approbation passée, c'est la critique. En effet, lorsqu'il approuve, c'est la fameuse phrase de la critique, de la contribution à la critique de la philosophie de droit de Hegel de 1844, là où Marx dit « L'esprit, en ce qui concerne la religion, l'esprit d'un peuple sans esprit, l'âme d'une nation sans âme, elle est l'opium du peuple. » Jusqu'ici, Marx approuve Feuerbach. Mais la critique arrive ensuite. Pourquoi ? Parce que Feuerbach avait proposé comme remède, comme solution pour que les concepts clés de la religion soient introduits dans le réel, avait préconisé deux choses. Il avait dit, les hommes sont les produits de circonstances et de l'éducation. Donc, il faut changer leur éducation et changer les circonstances matérielles de leur existence. À ce moment-là, les hommes changeront, la société changera, et puis on pourra introduire dans le réel toutes les meilleures choses que l'homme a projetées en dehors de lui-même et qu'il a appelé Dieu et qu'il a commencé à les adorer. Après avoir admiré le matérialisme feuerbachien, Marx le critique en disant « Mais finalement, qu'est-ce que vous faites, vous ? Vous aussi, vous posez les valeurs d'abord et vous jugez action accomplie en fonction des valeurs. Parce que seulement vos valeurs changent par rapport à celles établies par la religion. Chez eux, c'était la bonté, la charité, mal, bien, etc. Chez vous, c'est la lumière, la liberté, la justice, le droit, l'émancipation humaine, etc. » Car lorsque les deux solutions que vous proposez, changement d'éducation, changement de la société par la transformation des circonstances matérielles de la société, vous ignorez que dans cette société existent des classes, existe un État, que cet État a sa propre idéologie, sa propre culture, et que par conséquent, l'éducation, changer l'éducation, c'est-à-dire que l'État se coupera de l'éducation des hommes, eh bien, il n'y aura que la société bourgeoise. En ce qui concerne votre autre solution, changer les circonstances matérielles. Certes, l'homme est produit des circonstances, mais non pas des circonstances matérielles tout court, car l'expression « circonstances matérielles tout court », cela laisse entendre un matérialiste mécaniste. Et par conséquent, ce qu'il faut changer, et ces deux recommandations de Feuerbach, de Boer, de la gauche hegelienne, finalement, relèvent d'un certain matérialisme, à savoir matérialiste, mécaniste. Car les circonstances aussi, lorsqu'il faut les changer, qui va les changer? L'État. Par conséquent, c'est l'État, à défaut d'autres précisions. Ce matérialisme-là, il ignore la dialectique, il ignore le fait de la lutte des classes. C'est pourquoi, dans l'idéologie allemande de 1845, Marx dit « Feuerbach n'arrive jamais aux hommes qui existent et agissent réellement. Il s'en tient à une abstraction homme, avec grande H. Son homme n'est pas le produit de l'ensemble des rapports sociaux. » Voilà ce que ignore précisément l'analyse feuerbachienne. Son homme n'est pas le produit de l'ensemble des rapports sociaux, c'est-à-dire un phénomène de rapport dialectique, mais un produit mécaniste. Alors, c'est la rupture totale avec toute interprétation philosophique, quelle qu'elle soit, matérialiste ou idéaliste. De là, la conclusion de Marx, la thèse 11 sur Feuerbach. Les philosophes n'ont fait jusqu'ici qu'interpréter le monde. Ce qu'il faut maintenant, c'est de le transformer. Désormais, à partir des années 1845-47, Marx appliquera la dialectique partout, de plus petit au plus grand concept. Dans une lettre de 22 juin 1867 à Engels, après avoir dit, je cite, « J'espère que la bourgeoisie pensera toute sa vie à mes fourroncles. » Vous n'ignorez pas comment souffrait tout le temps des fourroncles. Il ajoute, je cite, « Pour ce qui est du développement de la forme de la valeur, j'ai suivi ton conseil et je ne l'ai pas suivi pour adopter aussi à cet égard une attitude dialectique. » Fin de citation. Par dialectique, Marx entend la dialectique hegelienne et ses lois qu'il envisage du point de vue matérialiste. Schématiquement, ces lois sont le changement dialectique, l'action réciproque, la contradiction, enfin, quatrièmement, transformation de la quantité à la qualité ou la loi du progrès par bond. Marx applique cette dialectique à l'histoire. Il verra l'histoire en tant que processus en perpétuel changement qui est le théâtre de la lutte des classes et conflit entre forces productives et rapports de production. Ces contradictions, en devenant antagonistes, provoqueront une transformation qualitative dans les rapports sociaux au sein de la société. Ainsi, le matérialisme historique, ce n'est pas autre chose que l'application à l'histoire du matérialisme dialectique. Une histoire qui n'est que le changement, qui n'est que l'enchaînement de processus, des modes de production esclavagistes, féodales, capitalistes, socialistes. Des phases et des enchaînements sortant les unes des autres. À l'intérieur de la société et tout au long de l'histoire, les hommes s'opposent aux hommes. C'est la lutte de classe, c'est la révolution socialiste, c'est la disparition des classes. Les hommes s'opposent à la nature, c'est le progrès technique, c'est l'industrie. Cette opposition, cette lutte constitue le dynamisme interne de la société. Et c'est par cet autodynamisme que l'histoire s'explique et s'avance. Ainsi, la contradiction moteur de l'histoire ne viennent pas, comme chez Hegel, du dehors. Elles ne sont pas fruits de l'imagination philosophique. Elles sont réelles, matérielles et existent concrètement dans la société et dans l'histoire. Matérialisme dans l'histoire, c'est le primat accordé à la vie matérielle et à l'économie en dernière instance. Alors, face à un Descartes qui écrivait « Je pense, donc je suis », définissant son être par sa pensée, par son esprit, face aussi à un Hegel qui disait la même chose. Par d'autres termes, Marx conclut dans une première étape par la fameuse phrase que tout le monde connaît « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, mais au contraire, c'est leur existence qui détermine leur conscience. » Dans ce même fameux texte de 1859, Marx poursuit, je voudrais bien attirer votre attention sur cette citation, « Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Ces rapports de production correspondent à un degré de développement donné de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base réelle sur quoi s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le procès de la vie sociale, politique et intellectuelle en général. À un certain stade de leur développement, les forces productives de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, alors s'ouvre une ère de révolution sociale. Dans ce texte, d'une extraordinaire richesse, Marx jette les fondements de ce qu'on a appelé le matérialisme historique, dont la plupart des thèmes ont déjà été développés dans ses écrits antérieurs. En effet, dans le texte que je viens de citer, on trouve premièrement l'idée de l'homme produit des rapports sociaux et non pas des circonstances, comme disait Feuerbach. Il pose le problème fondamental de la formation et de la prise de conscience. Et cela à travers, troisièmement, l'action, réaction, interaction de l'infra et de la superstructure dont la présence suppose l'existence d'une structure. Cinquièmement, il pose encore le problème de relation entre les forces productives avec les rapports de production. Sixièmement, il sort clairement de ce texte puisqu'il parle des formes de conscience sociale déterminées que l'idéologie de la classe dominante deviendra l'idéologie dominante. Septièmement, enfin, toujours dans ce même texte, Marx explique les lois de la dialectique matérialiste. Interpénétration des contraires, changement et processus en tant que principe de l'histoire, et enfin la transformation de la quantité à la qualité, c'est-à-dire ce que Marx appelle ici la révolution sociale. Ce rattachement du mot social à la révolution est important et indique la distinction que Marx a déjà opérée entre social et politique depuis les manuscrits de 1844, la critique de l'état de Hegel, la contribution à la critique, la question juive, l'idéologie allemande, la Sainte Famille en passant par le manifeste. Partout, cette révolution sociale ou socialiste, négation de la société capitaliste, est au centre de la recherche dialectique de Marx, dont le sommet se trouve concrétisé dans le Capital. Selon la dialectique du Capital, le passage du capitalisme au socialisme suppose la réalisation et la réunion effective de plusieurs conditions. Premièrement, la croissance numérique du prolétariat. Deuxièmement, l'augmentation de la productivité du travail en contradiction avec la paupérisation croissante du prolétariat. Troisièmement, la succession des crises dues à la surproduction. Enfin, quatrièmement, par suite de l'impossibilité pour l'économie capitaliste de soutenir par le marché libre un taux de profit qui lui assure la reproduction, intervient un changement quantitatif dans les institutions traditionnelles du système capitaliste. On assiste à la concentration du pouvoir économique qu'entraîne le déclin de la libre concurrence et son évolution consécutive vers le capitalisme d'État. C'est à travers tous ces changements, ces contradictions, que s'effectue la prise de conscience du prolétariat. Il s'organise, multiplie ses organisations de lutte politique et économique, partis et syndicats, et se bat de plus en plus consciemment dans sa lutte, dont le but est la suppression de sa propre condition de classe. En d'autres termes, la bourgeoisie, la thèse, ne se développe qu'en développant son antithèse, la classe ouvrière. Intervient alors la négation de la négation, c'est-à-dire l'avènement de la société sans classe. Ainsi, pour Marx, le changement social est donc le produit des contradictions internes de la société et de leur action réciproque. La société capitaliste enfante elle-même les agents et les principes de sa négation. Cette négation n'est donc pas verbale, oui ou non, ou mécanique, c'est-à-dire imposée du dehors. Elle est interne, réelle et matérielle. Par conséquent, la dialectique de Marx se caractérise par l'autodynamisme de la société bourgeoise, comme elle se distingue par l'auto-organisation, l'auto-émancipation, l'autodiscipline et l'autodétermination du prolétariat. L'ensemble des changements que je viens de mentionner se produit au sein de la société capitaliste. Leurs actions et leurs effets conjugués s'accumulent, exacerbe les contradictions du système jusqu'à l'explosion finale qui rend nécessaire le remplacement des structures existantes par des structures nouvelles, c'est-à-dire celle de l'État, de la dictature, du prolétariat. C'est encore un nouveau domaine, le domaine de l'État, de la dictature du prolétariat, où Marx a appliqué les règles de sa dialectique. Après avoir établi que la bourgeoisie est le conseil d'administration du capital, que l'État bourgeois est l'organisation de force d'une de coercition, une machine de répression organisée par une infime minorité afin d'opprimer, d'exploiter, dominer l'immense majorité des citoyens. Marx arrive à formuler le concept de la dictature du prolétariat, de l'État de la dictature du prolétariat, par analogie avec la domination, l'exploitation et la domination de la classe de la bourgeoisie.